Bon réveil à tous, nous sommes le vendredi 28 octobre 2016 et voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Grève générale aujourd'hui au Venezuela à l'appel des opposants au président Maduro. Hier, il a augmenté le salaire minimum de 40% tout en menaçant dans le même temps de faire occuper par l'armée les entreprises où le mouvement serait suivi. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi à Londres où le Brexit semble porteur de croissance économique pour le Royaume-Uni. En tout cas, pour l'instant, nous dira Antoine Gignot.
Et aux États-Unis, les premières dames unissent leurs forces pour battre Donald Trump.
Michelle Obama s'investit aux côtés d'Hillary Clinton dans la campagne démocratique. Résultat instantané, on l'entendra. Tandis qu'en France, un duel par meetings interposés s'est tenu en région PACA hier entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Dans la course à l'investiture à la primaire de droite, le maire de Bordeaux affiche de plus en plus de sérénité. Un candidat zen porté par des sondages favorables. Décryptage signé Stéphane Robert dans un instant. À 7h13, le billet économique de Jean-Marc Chardon sera consacré aux nouveaux habits du Conseil économique, social et environnemental qui fête ses 70 ans.
Et la question du jour. La Cour pénale internationale, une justice à deux vitesses. Le sujet du jour, les écologistes et les espèces animales menacées d'extinction.
Nous partons tout de suite à Caracas alors que l'opposition appelle à la grève générale aujourd'hui de 6h à 18h heure locale. Après les manifestations d'avant-hier où des centaines de milliers de personnes ont réclamé le départ du président Nicolas Maduro, ce dernier a augmenté hier le salaire minimum de 40% pour tenter de calmer la colère. Le pouvoir en place qui a reporté sine die le référendum révocatoire menace d'envoyer l'armée dans les entreprises qui suivraient le mouvement. Dans un pays en récession, cette grève sera-t-elle suivie? Aujourd'hui, Julien Gonzalez, le correspondant de RFI au Venezuela, est allé recueillir la parole des habitants à Caracas. Reportage.
Dans le quartier commerçant de Chacao, cette papeterie n'ouvrira pas ses portes ce vendredi. Une décision de faire grève qu'approuve cet employé, car pour elle, après la manifestation de ce mercredi, pas question de baisser la pression face au gouvernement.
C'est le moment de faire grève. Personne n'a jamais vu ça. J'ai 39 ans et je n'aurais jamais cru que nous allions vivre un jour une telle situation. En fermant, nous allons perdre de l'argent. Mais ce sacrifice doit valoir le coup. Nous ne sommes pas en train de faire un coup d'État. Nous sommes en train d'essayer d'avoir une qualité de vie et de changer le pays.
Une décision que ne partage pas ce gérant d'un restaurant du quartier, même s'il se revendique à 100% anti-Maduro. Une grève générale ne fera selon lui qu'aggraver encore plus la crise économique.
Les conditions ne nous permettent absolument pas de faire grève. Dans ce restaurant, nous devons payer nos employés, payer des impôts. Cette grève, ça va faire du mal au pays. C'est de la folie. Un pays en faillite comme le Venezuela a besoin de travailler plus et non de s'arrêter. Je suis d'accord pour aller manifester, mais pas pour la grève.
Le camp Maduro, lui, n'a pas tardé à réagir par la voix de Diosdado Cabello, l'homme fort du parti chaviste au pouvoir, qui appelle les travailleurs et les forces armées à occuper les entreprises à la
Reportage de Julien Gonzalez de RFI pour France Culture. Coup de théâtre hier, la Wallonie a finalement dit oui au CETA après l'obtention d'une clause supplémentaire par la voix de son ministre président. Mais une signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada n'est pas encore certaine, même si elle apparaît très probable désormais. Il faudra encore voter. Dans le journal de 7h30, vous entendrez la déception d'une députée wallonne et la prudence du ministre canadien des Affaires étrangères. Eux ont quitté l'Union européenne. Et pour l'instant, la croissance semble bien récompenser le Royaume-Uni. Plus 0,5% au troisième trimestre 2016. C'est ce que montrent les chiffres publiés par l'Office national des statistiques. Pourtant, derrière ces résultats encourageants, d'autres signes un peu plus inquiétants font dire à la plupart des économistes que l'année 2017 risque d'être plus difficile, Antoine Gignot.
C'est essentiellement le secteur des services qui tire l'économie vers le haut. Mais la production industrielle, la construction, l'agriculture ne se portent pas trop mal. L'industrie du cinéma, grâce au succès de films comme Ghostbusters, affiche une croissance en hausse. Et côté automobile, Nissan annonce, malgré les incertitudes liées au Brexit, qu'un nouveau modèle de voiture va être produit dans le sud de l'Angleterre. Les fondamentaux de l'économie britannique sont solides, explique Philip Hammond, le ministre des Finances, qui cherche depuis plusieurs mois à rassurer les investisseurs. Pourtant, derrière ce discours optimiste, les économistes restent méfiants. D'abord parce que les chiffres d'aujourd'hui ne sont que des statistiques partielles. 44% seulement des données économiques ont été traitées. Ensuite, parce que si la baisse de la livre a permis aux touristes de dépenser plus d'argent cet été, ce dopage artificiel est en train de ralentir. Le déficit commercial du Royaume-Uni vis-à-vis du reste du monde augmente avec une hausse massive des importations, une baisse des exportations. L'inflation, enfin, n'a jamais été été aussi haute depuis 2 ans. Les prix, notamment des vêtements, augmentent. Les ventes stagnent. À long terme, la baisse de la livre, qui rend les matières premières plus chères à acheter pour les Britanniques, risque de faire augmenter massivement le coût des produits dans les magasins.
Antoine Gignot, notre correspondant à Londres. Michelle Obama s'engage clairement aux côtés d'Hillary Clinton. Elle serait presque amie maintenant. La charismatique première dame des États-Unis a fait hier sa première apparition conjointe avec la candidate démocrate à la Maison-Blanche à Winston-Salem, en Caroline du Nord, lors d'une réunion qui a rassemblé 11 000 personnes. Un effet Michelle Obama instantané, car la présence de l'actuelle First Lady a entraîné la plus forte affluence pour un rassemblement dans cette campagne démocrate. Une amitié de circonstance, donc, qui devrait considérablement aider Hillary Clinton à mobiliser les électeurs dans cet état clé. Reportage de Frédéric Carbone.
Our most amazing First Lady, Michelle Obama.
Sur la même scène qu'une rockstar, Hillary Clinton joue volontiers les vedettes américaines. Elle n'est d'ailleurs jamais autant applaudie que quand elle vante les mérites de Michelle Obama. Personne, dit-elle, n'est une source d'inspiration aussi précieuse. Sentiment largement partagé dans la foule. Elle est la meilleure pour aller faire voter les jeunes et les femmes aussi, résume Vicky, qui porte un t-shirt à l'effigie du couple présidentiel. Michelle Obama écoute attentivement Hillary Clinton, elle l'enlace affectueusement à plusieurs reprises, elle parle d'elle comme une amie et elle est là pour humaniser cette candidate parfois distante. Je sais qu'Hillary a été élevée comme Barack et moi dans un milieu populaire, vous pouvez lui faire confiance. Les deux femmes n'utilisent pas le même registre, mais elles se retrouvent pour lancer un message identique.
You've got to vote. Are you with me? Leave here, go vote.
Quand vous sortez, allez voter. Les autobus sont d'ailleurs là sur le parking. En Caroline du Nord, le vote anticipé a commencé. Ce sera notre faute, lance Michelle Obama, si Hillary Clinton n'est pas élue.
La Russie nie en bloc les accusations lancées contre elle par l'ONU en Syrie. Moscou rejette toute responsabilité dans l'attaque qui a tué 22 enfants et 6 enseignants dans une école d'Idleb mercredi, selon les chiffres de l'UNICEF. Le Kremlin rejette également le rapport des Nations Unies démontrant l'usage d'armes chimiques par le régime de Damas envers sa propre population.
7h07, la suite du journal sur France Culture. Sophie Delpont passe d'armes par meeting interposé hier entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé.
Une joute qui s'est tenue en région PACA avec 2500 personnes rassemblées à Marseille pour Nicolas Sarkozy et un millier de militants autour d'Alain Juppé à Lagarde, près de Toulon. Le maire de Bordeaux, favori des sondages, en a profité pour se rendre dans un premier temps à Marseille, dans les quartiers nord de la ville, avant de rejoindre le lieu de son meeting dans le Var, où il a visité la rade avant de prendre la parole. Depuis quelques jour, Alain Juppé affiche une étonnante décontraction, Stéphane Robert.
Il se passe quelque chose d'étrange depuis quelques jours chez Alain Juppé.
Bonjour.
Il est zen, serein, décontracté, presque sympathique. C'est sans doute dû au fait que sa campagne se passe bien.
Elle se passe bien, nous avons des échanges très directs, très cordiaux avec la population dans tous les domaines. J'aime faire campagne.
Vous sentez une dynamique ?
Oui, absolument, on a ça un petit peu partout.
Et oui, parce qu'il y a une dynamique en faveur d'Alain Juppé. C'est en tout cas ce que mesurent les dernières enquêtes d'opinion. Et visiblement, ça fait son petit effet dans le camp Juppé, notamment sur l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
Vous savez, on dit toujours qu'on n'écoute pas les sondages, mais enfin les sondages, ça entretient le moral quand même, malgré tout.
Il y a peut-être aussi le fait qu'Alain Juppé a trouvé son créneau. Il semble incarner à la fois le contraire de Nicolas Sarkozy et le contraire de François Hollande.
Je crois que la fonction présidentielle a été dégradée par l'actuel président et parfois par son prédécesseur. Aux yeux des Français, il y a eu une sorte d'affaissement de la fonction et donc il semble que Alain Juppé ait les qualités aux yeux des Français qui lui donnent cette stature de président.
Alain Juppé est venu à Marseille et à Toulon, selon l'aveu de ses conseillers, taquiner son principal concurrent Nicolas Sarkozy, qui reste très populaire ici. Attention quand même à ne pas être ni apparaître à 3 semaines du premier tour de la primaire trop confiant.
Stéphane Robert. Yannick Jadot et Michel Rivasi, les deux candidats issus du premier tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts, ont débattu hier sur BFM TV. Pas facile de se démarquer sur le fond, car le programme est quasiment le même. Yannick Jadot et Michel Rivasi donc portent les mêmes idées, mais côté tactique, le discours est différent. Yannick Jadot revendique le réalisme, il réaffirme qu'il sait qu'il n'a aucune chance de gagner la présidentielle. Ce n'est pas l'avis de Michel Rivasi. Décryptage signé Boris Allier.
Yannick Jadot et Michel Rivasi, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Là où ils peuvent se différencier, c'est dans le style, la stratégie et la posture à adopter. Un écologiste à l'Élysée, Michel Rivasi s'y voit déjà, pas Yannick Jadot.
Je ne crois pas qu'il y aura un président écologiste en 2017. C'est une candidature de conviction, c'est une candidature de construction.
Moi, je n'ai pas ce même positionnement. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection en disant « je ne serai pas élu ».
Enfin, vous ne comprenez pas sincèrement que vous allez être élu président écologiste.
Non, mais nous, on dit…
C'est ça le sujet.
Mais le sujet…
C'est quand même ça le sujet. Voit.
Moi, je ne veux pas créer une déception.
Mais la
déception,
je veux
qu'on sorte de cette
c'est
campagne
la construction
avec la banane,
de l'avenir.
Qu'on soit super heureux de notre campagne
oui.
Et qu'on gagne des législatives.
Les deux candidats veulent rassembler une famille divisée. Il n'y aura pas d'alliance avec le Parti socialiste, répète-t-il. Les réfugiés, il faut les accueillir. Et puis, tous deux appelleraient à la désobéissance civile. En cas d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les premières mesures de Michel Rivasi, rapprocher les citoyens de la politique, mener la transition énergétique. Yannick Jadot va dans le même sens et en rajoute.
Si Michel Rivasi est élu président de la République, je ne doute pas qu'elle me nommera Premier ministre. Et si je suis élu président de la République, une mesure concrète qui se rajoute à toutes celles-là, c'est 100% de la restauration collective fournie par l'agriculture paysanne locale ou biologique.
Il faut maintenant départager les deux candidats. Les électeurs ont jusqu'au 4 novembre pour s'exprimer par correspondance.
Les résultats du second tour seront dévoilés, eux, le 7 novembre prochain. Au premier tour, je vous rappelle que Yannick Jadot avait recueilli plus de 35% des voix contre 30% pour Michel Rivasi. Le soleil domine sur la moitié sud ce matin, à l'exception de quelques brumes matinales sur le littoral atlantique et la région toulousaine. Voile de nuages sur la moitié nord, grand ciel bleu en revanche partout cet après-midi, sauf le long de la frontière belge. Température 6 degrés à Bordeaux, 7 à Belfort, 8 à La Rochelle, 10 à Amiens, 12 à Paris, 15 à Nîmes et jusqu'à 22 degrés sur la Corse.